RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Toute l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, cette alerte de Médecins sans frontières dans l'est de la RDC. L'ONG dénonce des affrontements qui ont touché sa base logistique à Walikale, au Nord Kivu. Une ville où les combats ont été intenses hier au lendemain de la rencontre surprise Tshisekedi Kagame. Les contours d'un éventuel cessez-le-feu auquel ont consenti les chefs d'État restent à dessiner. On verra tout ça ensemble dans quelques instants. 18 milliards de francs CFA décaissés au Gabon, quelques 27 500 000 euros. Libreville annonce ainsi régler sa dette auprès de la Banque mondiale. Des centaines de marchands de rue invités à quitter un quartier central d'Antananarivo à Madagascar. Décision de la nouvelle mairie de la capitale qui provoque un vent de colère auprès des principaux intéressés. Reportage à suivre. Et puis la justice d'Afrique du Sud qui entérine un accord pour tenter de sauver les manchots du Cap. Accord entre les défenseurs de l'environnement et l'industrie de la pêche. Interdiction de pêcher dans 6 zones de reproduction pour une durée de 10 ans. Après cette rencontre inattendue avant-hier au Qatar, après que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont à nouveau prononcés en faveur d'un cessez-le-feu, eh bien en attendant que cela se traduise éventuellement dans les faits, les armes parlent toujours sur le terrain dans l'est de la RDC. Les combats se sont ainsi poursuivis hier autour de la ville de Walikale au Nord Kivu comme depuis plusieurs jours, mais pour la première fois ils se sont invités au sein même de la ville. Le bilan est inconnu, mais dans ce contexte, Médecins sans frontières dénonce des affrontements qui ont touché sa base logistique sur place. Pas de victimes, heureusement, parmi les patients et les équipes, mais des dégâts matériels, tout de même. Contacté hier soir, Emmanuel Lamparte, directeur de l'ONG en RDC, a déploré une atteinte de trop sur les structures de santé.
Ce soir, à partir de 17h, des combats ont éclaté, des tirs au niveau de Walikale Centre, qui ont fort malheureusement impacté notre base logistique. Pour le moment, l'hôpital a été épargné, n'est pas touché, et nos équipes sont saines et saufs. Bien entendu, ceci constitue une énième rappel du respect pour tout ce qui est infrastructure médicale, base et personnel des organisations humanitaires, médico-humanitaires.
L'alerte d'Emmanuel Lamparte de l'ONG Médecins sans frontières en RDC. Les armes qui s'expriment donc toujours dans l'est du pays, malgré cette rencontre mardi au Qatar, lors de laquelle les chefs d'État congolais et rwandais se sont à nouveau prononcés en faveur d'un cessez-le-feu. Mais cette trêve, désormais, il faut en dessiner les contours conformément aux efforts diplomatiques menés également par la SADC et l'EAC, les communautés d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes? On voit ça concrètement avec Patient Ligodi.
Beaucoup reste à construire. D'abord, la confiance entre Kinshasa et Kigali. Une confiance fragile que l'émir du Qatar tente de renforcer en maintenant un dialogue régulier entre les deux parties. Ensuite, il y a l'appui à la mise en œuvre de ce qu'on peut désormais appeler le processus de Dar es Salaam. Et pourquoi ces noms? Parce que c'est dans la capitale tanzanienne que le 8 février dernier, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont annoncé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Objectif, unifier les efforts régionaux pour pacifier l'est de la RDC. Mais la fusion reste à formaliser. Et d'ici au 31 mars, le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto, doivent se rencontrer pour entériner cette fusion. Ils doivent aussi échanger avec les trois facilitateurs désignés pour accélérer le dialogue politique. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre éthiopien. Leur mission, faciliter les discussions entre Kinshasa et Kigali, mais aussi avec les groupes armés actifs dans l'Est congolais. Le 17 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC ont proposé une feuille de route qui donne 30 jours aux parties prenantes pour asseoir un véritable cessez-le-feu avec des engagements concrets et un mécanisme de suivi sur le terrain.
Patient Ligodi, et ce qui semble donc avoir quelque peu débloqué la situation dans ce dossier, c'est finalement l'intervention du Qatar, vous l'aurez compris, quelle que soit l'issue, c'est déjà une victoire diplomatique, c'est indéniable. À l'heure où Doha multiplie les médiations, le Qatar se pose et est souvent vu comme un acteur neutre. Sa crédibilité, oui, c'est en effet son levier d'action, c'est en tout cas l'analyse de Benjamin Auger, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne parlementarienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Je pense que le levier, c'est le même que dans toutes les médiations que le Qatar a entrepris depuis déjà plus d'une décennie. C'est-à-dire qu'il se voit comme un acteur qui lui-même n'a pas besoin de business, qui est plutôt un acteur qu'on vient chercher pour pouvoir avoir des fonds. Il se considère comme un acteur neutre. Donc, il met à disposition sa plateforme de négociation et de médiation pour pouvoir négocier. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Nécessite des moyens, il mettra des moyens. Si ça nécessite éventuellement des investissements dans les deux pays, il mettra la main à la poche. Et l'objectif, c'est que, quel que soit le temps que ça prendra, qu'ils arrivent à un consensus. Donc, c'est un acteur dont on ne pense pas, du point de vue de Kinshasa ou du point de vue du Rwanda, qu'il y a un agenda caché. Et ça, c'est la grande force du Qatar, depuis longtemps, dans toutes les médiations qu'il a entrepris, que ce soit en Afghanistan, au Darfour et dans bien d'autres cas.
L'analyse du chercheur Benjamin Auger qui revenait sur la crédibilité du Qatar en tant que médiateur. Sa crédibilité, le Gabon veut également la conserver face aux bailleurs internationaux. Libreville veut en effet montrer qu'elle remplit ses obligations financières. Et pour cela, le gouvernement gabonais a annoncé hier avoir décaissé quelque 18 milliards de francs CFA, soit environ 27 500 000 euros, afin de rembourser des arriérés auprès de la Banque mondiale. Yves-Laurent Goma.
Pas de prise de parole publique pour annoncer la nouvelle. Le ministère du budget, des comptes publics et de la dette s'est contenté d'un communiqué écrit. À moins d'un mois de la présidentielle, le gouvernement a tout de même débloqué cette enveloppe de 17 900 millions de francs CFA pour apurer les échéances dues à la Banque mondiale. Ce règlement allège le fardeau de la dette héritée de la gestion antérieure au 30 août 2023, c'est-à-dire avant le coup d'État qui a porté le général Brice Clotaire Oligui-Nguema au pouvoir, a expliqué le gouvernement dans son communiqué. Le bureau local de la Banque mondiale n'a pas confirmé avoir reçu ce paiement. En janvier dernier, dans un communiqué, l'institution exprimait son agacement après l'accumulation des arriérés chiffrés alors à 17 milliards de francs CFA. La Banque mondiale n'est pas l'unique bailleur de fonds qui presse le Gabon à payer ses dettes. L'an dernier, le président de la Banque africaine de développement était venu en personne à Libreville à ce sujet. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Une opération déblayage à présent au cœur de la capitale malgache, à Antananarive, dans le quartier central d'Analakel. Des centaines de marchands de rue sont invités à quitter la grande avenue de l'Indépendance, un point de vente pourtant historique pour eux. Décision de la nouvelle mairie qui froisse tous ces vendeurs de café, ces réparateurs de téléphones ou autres gargotiers. Autant de métiers qui reflètent l'importance du secteur informel malgache, mais aussi la crise de l'emploi dans la grande île, des métiers qui permettent à certains de survivre, tout simplement. Reportage sur place, Pauline Troquier.
Leurs voix vont peut-être disparaître du quotidien des Tananariviens. Ce n'est pas la première fois que les marchands de rue d'Analakel sont menacés d'expulsion. Consternation tout de même pour Tranquille, vendeur de montres. Lui voyait en la nouvelle maire, tout juste élue, une alliée naturelle.
C'est une vraie trahison. Ici, on a tous voté pour la nouvelle maire car elle vient comme nous du monde du commerce.
Le sentiment est partagé au stand voisin par Rakout. Quand les autorités avancent un nécessaire retour à l'ordre et à la sécurité dans cette zone vitrine du pays, ce vendeur redoute l'effet inverse.
Si nous, nous nous retrouvons sans revenus du jour au lendemain, eh bien je crois que ça risque de favoriser les actes de banditisme.
Les précédents maires ont aussi développé des stratégies pour tenter de maîtriser la place du commerce informel dans les environs. Tous ont cédé aux résistances des marchands au bout de quelques semaines, tout au plus. À elle seule, cette avenue très fréquentée fait vivre des milliers de familles, comme celle de Vouloul Nirine, vendeuse de soda depuis 15 ans.
On a déjà essayé de nous faire partir. Mais on a toujours réussi à revenir. Cette fois-ci, il paraît qu'on veut nous reloger quelque part. Mais c'est ici que les affaires marchent le mieux. Et nous ne voulons vendre nulle part ailleurs qu'à Analakel.
Des agents de police seront déployés tout au long de la journée ce jeudi pour encadrer l'opération d'évacuation et sanctionner tout mouvement de résistance. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Audience reportée en France, à Paris, dans le dossier judiciaire Agathe Abiarimana. La cour d'appel n'a pas pu étudier les requêtes du ministère public, alors que l'ex-première dame du Rwanda a jusqu'ici échappé aux poursuites dans l'enquête ouverte en 2007 sur son rôle présumé dans le génocide des Tutsis. Le parquet national antiterroriste français demande notamment sa mise en examen. Audience à huis clos hier qui n'a pas pu se tenir donc. Prochaine audience fixée désormais le 21 mai prochain. Au Niger, les autorités font machine arrière après avoir expulsé il y a une semaine les directeurs de trois grandes sociétés chinoises, la Soraz, la CNPC et WAPCO, engagés dans l'exploitation du pétrole nigérien et accusés d'être responsables de la pénurie d'essence qui sévit au Niger depuis une dizaine de jours. Mais dans un point presse, hier, le ministre du pétrole nigérien, Sahabi Oumarou, a finalement appelé la Chine à la négociation. Il a une allure particulière, c'est certain, sur les rives d'Afrique du Sud, le manchot du Cap. Il est surtout menacé d'extinction, malheureusement. Un danger pris au sérieux par la justice qui vient d'entériner un accord entre les groupes de pêche et les défenseurs de l'environnement. La pêche est désormais interdite pour 10 ans autour de 6 zones différentes connues comme des lieux de reproduction. C'est une avancée, Lucille Gimbert.
C'est le couronnement de 15 années de travail scientifique et de plaidoyer environnemental. En plaçant des GPS sur les manchots qui plongent depuis les côtes sud-africaines pour nourrir leurs poussins, les chercheurs ont montré que les manchots du Cap disparaissent à vitesse grand V depuis les années 2000, avant tout à cause de la surpêche industrielle des anchois et sardines. C'est ce qu'ils mangent. Sur 20 km autour de Robben Island, où Nelson Mandela avait été enfermé, et autour de 5 autres zones de reproduction de ces oiseaux, les grands filets de pêche n'auront donc plus droit de citer, la biologiste marine Lauriane Pichegru.
C'est une nouvelle formidable pour une fois que le secteur de la conservation gagne. C'est vraiment quelque chose qu'il faut célébrer et donc c'est tout à fait possible que des fois le pot de terre peut gagner contre le pot de fer et les industries. C'est vraiment un travail de fond de longue haleine et on a trouvé un accord commun pour des zones qui seront utiles pour les manchots et qui ne coûteront pas trop aux pêcheurs. Donc c'était vraiment un compromis.
Un compromis approprié. Négocié, obtenu aussi grâce à une plainte déposée en justice. Les colonies de manchots du Cap souffrent du changement climatique, de la pollution liée aux bateaux qui se ravitaillent en carburant dans la zone, mais leur garantir une nourriture suffisante est, d'après les scientifiques, la mesure clé pour assurer leur survie.
Lucille Gimbert au Cap et à Johannesburg. Il est 9h bientôt passé de 42 minutes. Notre matinale continue avec Marion Casanova.